science et vous.
La science pour vous.
Radio Oulala. Et mes sciences, la science. Et vous, la science pour vous.
Bonjour Aurélia, bonjour Stéphane, bonjour,
bonjour
à tous.
Maïva.
Et bienvenue dans cette émission. Pendant 20 minutes, il y aura question de science. Oui, mais de science qui vous concerne, vous auditeurs, celle qui fait votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler du vol chez les animaux. Vol dans tous les sens du terme. On pense tout de suite aux oiseaux et je me demandais pourquoi les oiseaux qui migrent volent en V, Stéphane. Pouvez-vous nous éclairer ?
Oui, vous avez remarqué en levant la tête les oies, les canards qui adoptent une formation en V en volant. Idem pour la patrouille de France, mais ces oiseaux-là sont un tantinet plus bruyants. Eh bien, c'est tout simplement pour dire aux autres volatiles de se joindre à eux, car c'est le V de Venez.
Mais non !
Non, bien sûr. C'est une réponse d'une petite fille à cette question entendue en animation. La raison est beaucoup plus pragmatique. C'est une solution pour économiser de l'énergie. Quand un oiseau vole, son mouvement dans l'air entraîne la formation de courant qui se déplace. Aussi, l'oiseau suiveur, bien positionné, profitera des flux d'air ascendants émis par le meneur. La puissance de ces courants porte donc, en quelque sorte, l'oiseau qui le suit.
Ça signifie que le suiveur dépense moins d'énergie pour maintenir la vitesse de son vol.
Tout à fait. Et il en va de même pour les oiseaux du groupe qui se suivent.
Et cette explication a été confirmée par d'autres études ?
Oui, Maëva. Des mesures très précises ont été faites sur des oiseaux volontaires munis de capteurs. Il en ressort une différence énergétique de quelques pourcents, le temps de l'étude d'Henri Weimer-Kirsch et ses collègues du CNRS, ce qui est considérable quand on sait qu'une migration transcontinentale dure plusieurs semaines.
Et il y a d'autres raisons pour expliquer ce vol en escadrille ?
Oui, cette fois plus biologique que physique. Les oiseaux qui volent en V ou en demi-V ne le font pas en ligne droite, l'un derrière les autres, mais de manière décalée. Cette position convient mieux à leur morphologie parce que les yeux des oiseaux sont disposés sur le côté de la tête. En volant de manière légèrement décalée par rapport à leurs congénères du devant, les suiveurs peuvent mieux surveiller les mouvements de ceux qui les précèdent. Cette capacité est primordiale pour le meneur du groupe, car son vol à lui n'est pas soutenu par le moindre courant porteur.
Il se fatigue donc plus vite que les autres.
Tout juste, Auguste. Et dès qu'il commence à faiblir, l'oiseau placé derrière lui, de par sa position en biais, s'en aperçoit rapidement. Il est alors en mesure de le remplacer sans ralentir le vol du groupe. Dans ces conditions, tout se passera pour le mieux jusqu'à leur arrivée.
Rien de mieux pour accompagner ces observations que les réflexions de Michel Delpech avec le titre « Le chasseur ».
Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus les temps. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Par-dessus les champs, montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marées.
à l'instant sur des épreuves d'endurance. Maintenant, savez-vous quel animal détient le record du monde de vitesse ?
Oui, l'animal le plus rapide de notre planète à ce jour se déplace dans les airs. C'est le faucon pèlerin. En vol piqué, il peut atteindre une vitesse maximale de 340 km par heure. En 2005, un faucon pèlerin a même été enregistré à 389,46 km par heure, soit 16 km par heure au-dessus du record mondial de Formule 1.
Ouais, l'avantage des oiseaux, c'est qu'ils font moins de bruit. Hein.
Et heureusement pour eux, car ces pointes de vitesse sont atteintes lorsque l'oiseau plonge sur une proie.
Et comment fait-il pour aller aussi vite ?
Eh bien, tout cela est possible grâce à une anatomie particulière, même parmi les rapaces. Des ailes plus compactes et inclinées, des crêtes osseuses moins marquées pour accroître l'aérodynamisme et des plumes plus rigides pour fendre l'air et changer de direction. Enfin, sachez que pour que la pression de l'air ne fasse pas suffoquer le faucon lors de ses importants pics de vitesse, ses narines possèdent de petits os appelés tubercules qui permettent de ralentir l'air localement et donc de diminuer la pression, l'air de rien. Mais savez-vous que les faucons sont de drôles d'oiseaux ? Intéressons-nous à un autre type de vol.
Comment ça ?
Des oiseaux qui volent au sens de dérober, mais pas de simples objets, comme le veut la croyance des pies qui volent des bijoux. Non, je veux parler d'un vol pour le moins sacré, à savoir le feu.
Alors, moi, je connaissais la légende du phénix capable de renaître après s'être consumé dans les flammes.
Eh bien, figurez-vous qu'à la différence de Prométhée, qui, encore selon la mythologie, vola le feu de l'Olympe pour en faire don aux humains, certains volatiles auraient tourné à leur avantage le potentiel des braises d'un incendie de forêt.
Vous voulez dire que des oiseaux seraient pyromanes ?
Il y a un peu plus d'un an, c'était le 14 janvier 2020, les rapports de feux de brousse en Australie font état d'environ 186 000 km² brûlés, 5 900 bâtiments détruits, près de 500 morts et 4 000 hospitalisés.
Mais ça n'a rien à voir avec les oiseaux. Ils seraient plutôt à déplorer côté victimes des incendies.
Pas si sûr, ou du moins peut-être pas tous. Outre la chaleur, la foudre et la bêtise humaine, une famille inattendue de pyromanes a été débusquée. Bon nombre d'aborigènes rapportent des témoignages accablants, ne laissant plus vraiment planer le doute. Les rapaces en cause seraient le faucon Berigora, le milan noir et le milan siffleur. Ils agiraient seuls ou en groupe.
Pourquoi ferait-il ça ?
Eh bien, pour se nourrir des animaux victimes de ces incendies. Quand les reptiles, les grenouilles et les insectes sortent du feu, ces oiseaux attendent devant, juste au pied des flammes, pour les attraper sans y laisser de plumes.
Mais ce ne sont quand même pas les oiseaux qui allument les feux.
Non, bien sûr. Le faucon ramasserait un bâton fumant dans ses griffes, s'envolerait avec, puis le laisserait tomber dans une autre parcelle d'herbe sèche à quelques centaines de mètres. Il n'aurait plus qu'à attendre avec ses compagnons la ruée de rongeurs et de reptiles brûlés et effrayés. D'aucuns diront qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ainsi, certains rapaces relanceraient des feux éteints ou les déplaceraient au-delà de barrières susceptibles d'entraver leur propagation. Technique de chasse faisant feu de tout bois.
C'est impressionnant.
Pour le moins, l'incendie aviaire permettrait donc aux rapaces opportunistes d'attraper des animaux qui fuient ou de se nourrir des restes de ceux morts dans les flammes. Si les feux attirent beaucoup d'oiseaux, il n'y a plus assez de proie pour tous. Un rapace a donc tout intérêt à mettre le feu un peu plus loin. Après l'homme et la foudre, les oiseaux seraient le troisième vecteur d'incendie dans le bush australien. Sans vouloir souffler sur les braises, c'est chaud. Reste à savoir comment ces rapaces ont pris l'idée d'incendie au vol. J'imagine qu'après tergiversation de Yaka Faucon, l'étincelle a germé et ça a donné « Allez Falcon, toi qui es tout feu tout flamme, prends ce bâton fumant et pars au charbon ».
Nous vous proposons à présent une fable de La Fontaine où certains oiseaux se montrent particulièrement hautains avec les autres et pas uniquement en raison de l'altitude.
Le faucon et le chapon, Jean de La Fontaine.
Une traîtresse voix bien souvent vous appelle. Ne vous pressez donc nullement. Ce n'est pas un sot, non, non, et croyez-moi, que le chien de Jean de Nivelle, un citoyen du Mans, chapon de son métier, était sommé de comparaître par-delà les lares du maître, au pied d'un tribunal que nous mont foyer. Tous les gens lui criaient, pour déguiser la chose, « Petit, petit, petit !» Mais non, loin de s'y fier, le Normand et demi laissait les gens crier.
« Serviteur, disait-il, votre appât est grossier. On ne m'y tient pas, et pour cause. »
Cependant, un faucon, sur sa perche voyait notre manceau qui s'enfuyait. Les chapons ont en nous fort peu confiance, soit instinct, soit expérience. Celui-ci, qui ne fut qu'à peine attrapé, devait le lendemain être d'un grand souper, fort à l'aise en un plat, honneur dont la volaille se serait passée aisément. L'oiseau chasseur lui dit
« Ton peu d'entendement me rend tout étonné. Vous n'êtes que racaille, gens grossiers, sans esprit, à qui l'on n'apprend rien. Pour moi, je sais chasser et revenir au maître. Le vois-tu pas à la fenêtre ? Il t'attend. Es-tu sourd ?»«
Je n'entends que trop bien, » répartit le chapon. « Mais que me veut-il dire ? Est-ce beau cuisinier armé d'un grand couteau ? Reviendrais-tu pour cet appôt ? Laisse-moi fuir, cesse de rire, de l'indocilité qui me fait envoler, lorsque d'un ton si doux on s'en vient m'appeler. Si tu voyais mettre à la broche tous les jours autant de faucons que j'ai mis maître de chapons, tu ne me ferais pas un semblable reproche. »
Bien, mais pour en revenir au vol, disons, plus conventionnel chez les animaux.
Alors, dans ce cas, je vous propose le vol de la chauve-souris, qui d'ailleurs intéresse beaucoup les ingénieurs.
Qu'y a-t-il de si particulier ?
Il est très différent du vol des oiseaux, qui se servent essentiellement de leurs bras et de leurs plumes. Les chauves-souris, qui sont les seuls mammifères volants au sens strict, se servent de leurs mains et de leurs membranes de peau fines et souples qui relient chacun de leurs 5 longs doigts.
Ah, autant que nous. Et pourquoi ce nom de chauves-souris, au fait ? Elles ne sont pas chauves, que je sache.
Vous avez raison. Et ce ne sont pas des souris non plus. Les souris sont des rongeurs, les chauves-souris appartiennent à l'ordre des chiroptères, qui veut dire « main volante » en grec. En fait, la confusion viendrait d'une mauvaise traduction romaine. La chauve-souris était autrefois appelée « kawasorix », signifiant « chouette-souris ». C'est vrai que de nuit, à l'époque, et dans le brouillard, on pouvait imaginer l'animal à mi-chemin entre rapace et rongeur. Mais le terme « kawa » a été transformé en « calva », qui se traduit par « chauve », d'où « chauve-souris ». Si déjà les Romains mettaient du calva dans leur kawa, ceci pourrait expliquer cela.
Et pour en revenir au vol ?
Oiseaux et chauves-souris adoptent des stratégies aérodynamiques différentes. À chaque mouvement ascensionnel, les oiseaux sont capables de séparer les plumes situées au bout de leurs ailes pour diminuer la résistance liée au frottement de l'air. Comme les chauves-souris n'ont pas de plumes, elles doivent tourner leurs ailes vers l'arrière et à la verticale pour monter un peu plus haut vers le ciel. De plus, chaque aile de chauve-souris génère son propre vortex indépendant. Cette technique a l'avantage de permettre aux chauves-souris de changer rapidement et fréquemment de direction. Dans la pénombre, le vol si particulier de la chauve-souris se différencie facilement de celui des oiseaux.
Et en quoi ce vol peut nous concerner ?
Elles peuvent adopter le vol battu, le vol stationnaire et éventuellement le vol plané. Vous aurez compris, avec toutes ces facultés de déplacement hors pair, elles intéressent les ingénieurs. L'idée est de mettre au point des petits drones capables de naviguer dans les environnements urbains. On peut dire qu'à force de les étudier, s'ils arrivent à leur fin, les techniciens ne l'auront pas volé.
Eh bien, écoutons à présent la chauve-souris de Thomas Fersen.
Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris émet un parapluie, émet un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir, pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servit le balancier, un vendeur de cravate le prit comme associé, puis Puis il se déplia sur une permanente. Puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes. Car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit. Une chauve-souris aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au Père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau. Avec le mec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, hurla la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris aimait un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie.
Il existe aussi une catégorie d'animaux dotés d'ailes dont il serait dommage de ne pas parler.
Eh oui, les insectes. Comme vous le savez, les adultes ont tous un corps segmenté, des antennes, six pattes et deux paires d'ailes. Cependant, au cours de l'évolution, le nombre d'ailes peut différer selon l'ordre auquel ils appartiennent. Par exemple, la puce a perdu ses ailes, les mouches ou diptères en ont deux fonctionnelles, les abeilles, les papillons en ont quatre. Penchons-nous donc sur le cas d'insectes qui, au-delà de leur simple vol, nous permettent, de par leur présence ou leur absence, de nous éclairer sur des faits pour le moins obscurs. Nous vivons dans un monde où tout se sait. Au-delà des caméras de surveillance, des drones, des connexions Internet et de la géolocalisation de notre téléphone portable, si vous avez commis un meurtre ou un assassinat, les mouches jouent les délatrices désormais.
Ah, expliquez-nous ça.
Il faut savoir que le monde des insectes est un monde d'odeurs, surtout chez les nécrophages, c'est-à-dire ceux qui mangent les cadavres. Certains insectes peuvent être attirés par une odeur sur plusieurs kilomètres. À notre échelle, le cadavre d'un homme mort à Paris pourrait sans aucune difficulté être détecté au Mans.
Ah oui, impressionnant.
Ni une ni deux, notre bestiole se précipite vers la promesse d'un succulent repas, sans prendre le TGV, mais grâce aux capacités de vol dont elle est pourvue. Eh bien, sachez que les mouches sont les meilleurs indiques.
Et pour quelle raison ?
Parce qu'elles sont les premières à arriver sur le lieu du crime.
Ah, et elles volent plus vite que les autres ?
Pas du tout. Il n'empêche que le vol de la mouche reste une merveille de la nature. Tenez, la mouche peut décoller verticalement ou même en marche arrière. En vol, elle peut faire du stationnaire, changer instantanément de direction, accélérer ou ralentir, propulsée par un mécanisme d'une extraordinaire efficacité. Elle atterrit verticalement à une vitesse impressionnante. Elle se pose sans difficulté, à l'envers, sur un plafond, ce dont aucun engin volant fabriqué par l'homme n'est encore capable. Elle replie ses ailes aussi facilement qu'on referme un parapluie et les redéploie avec une aisance incomparable. En fait, si elle arrive avant les autres, c'est tout simplement parce que la mouche bleue est la seule à être attirée par les premières odeurs dégagées par le cadavre.
Mais je comprends pas, comment les insectes qui ne parlent pas font-ils pour nous renseigner ?
Tout simplement parce qu'ils arrivent sous forme d'escouades, c'est-à-dire de petits groupes d'espèces déterminées en fonction de l'avancement de décomposition du cadavre. Les premières mouches arrivent, grâce à leur vol, seulement quelques minutes à quelques heures après la mort, voire parfois à l'agonie. Elles viennent manger et pondre leurs œufs dans les orifices naturels. Une fois pondus, les œufs se transforment en larves, puis en pupes et s'envolent pour de nouvelles aventures. L'odeur du cadavre évoluant au cours du temps, les premières mouches ne sont plus attirées et ne seront plus présentes sur les lieux. D'autres espèces de mouches arrivent après un mois à cause de la forte odeur de fermentation du corps en décomposition. Entre 3 et 6 mois, une odeur qui fait penser au vieux fromage émane de la dépouille. De nouvelles espèces de mouches et de coléoptères se mettent à table. 4 à 8 mois après le décès, la fermentation ammoniacale attire encore d'autres mouches et coléoptères. Suivent des coléoptères et des espèces de papillons au 9e mois post-mortem, attirés par l'odeur de graisse rance cette fois. Et ainsi de suite, jusqu'à 3 ans après le décès. Vous l'aurez compris, il est possible de dater l'heure d'un crime en observant la faune des insectes présentes sur place, même si dans les faits, il y a beaucoup de paramètres à en prendre en compte.
On peut dire cette fois que ce sont les insectes qui volent la vedette aux enquêteurs judiciaires.
Vous êtes friande de jeux de mots, mais ne l'auriez-vous pas volé vous-même ?
Oui, on sait que c'est vous le spécialiste des jeux de mots, Stéphane. Hein. Bon, en tout cas, pour en finir avec les diptères, on va s'écouter un petit zobilamouche des négresses vertes. Mais avant, merci beaucoup Stéphane pour toutes ces précisions. Merci Aurélia. Autant vous dire que je ne regarderai plus les faucons, les chauves-souris ni les mouches du même œil désormais. Je vous dis à bientôt peut-être pour répondre à d'autres questions scientifiques sur une nouvelle thématique. Radio Oulala, Émettre Science, la science. Et vous, la science pour vous.
Vous me reconnaissez ? Ah, c'est moi ! Zobé ! La mort ! Hey, madame, satan, réo ! J'suis pas tant crédible. Quand on me trouve loche, c'est qu'il laisse la Bible en ouvrant la poche. Sous deux gens, les cibles, des gobeurs de moche. Et hop dans le mille, je fonce dans la gosier, je ressens pas les tournées. Hop dans le mille, je fonce dans la gosier, je ressens pas les tournées.
Okay.